Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Le Pied dans la Porte. Aujourd'hui le studio est plein, j'adore ça, comme j'aime cette belle ambiance. Donc nous recevons aujourd'hui Jolène Ruet. Bonjour Jolène.
Salut.
T'es autrice du roman Les danseurs étoiles parasitent ton ciel, pour un projet qui va combiner ballet classique et roman à la salle Fred Barry. Ça commence le 14 février, donc dans moins d'une semaine, jusqu'au 4 mars.
Effectivement.
Ouais. L'auteur-compositeur, alors Raphaël, qui nous présente son projet Monsieur Raph et ta chanson Essentielle, qu'on commence à bien entendre en ce moment, ton troisième titre qui est tiré d'un album à apparaître.
Oui, salut, enfin, exactement, c'est bon. Ça, c'est un nouvel album à apparaître.
On va en parler dans un instant. Et après, eh bien, on a notre chroniqueur, Jamin Chtouki, qui est là pour sa chronique La Plume dans le Vinaigre, mesdames, messieurs.
Bonjour.
Comme je le dis d'habitude, je m'en excuse d'avance. Je ne sais pas ce qu'il va dire, donc pardonnez-moi.
Vous avez du temps à vous préparer.
Et après, si vous ne voulez pas suivre la fin de l'émission, ben vous pouvez aussi. un petit moment musical, Mathieu, puis on va avec Jolène immédiatement. Alors Jolène, on est avec toi pour Les danseurs étoiles parasitent ton ciel. Moi, ce que j'aimerais te demander tout de suite, c'est derrière cette histoire, derrière ce roman, est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a amené à créer tout ça?
La genèse des danseurs étoiles? j'allais dire par où commencer? Oui, il y a beaucoup d'anecdotes, c'est la fusion du vrai et du faux. Là. Enfin, dans le fond, quand... J'ai vraiment travaillé au Dairy Queen, qui est l'endroit où le personnage principal travaille, sur Sainte-Catherine-Est, à côté du théâtre Denise Pelletier, là où ont lieu les représentations. Là, tout est dans tout. Dans...
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vrai. Est-ce que Prunelle...
Oui,
c'est
Prunelle.
Bien Prunelle, c'est un peu toi?
Oui, exact, parce que quand je suis sortie de l'école de l'humour en 2012, j'ai travaillé au Dairy Queen, fait que c'est sûr que je me questionnais beaucoup professionnellement sur est-ce que je suis en train de... être plus proche de réaliser de mes souhaits les plus chers, de faire de l'art, où j'étais en train de m'y éloigner, parce que c'est toujours la difficile conciliation travail alimentaire et création.
Parce que passer du stand-up à l'écriture, c'est pas...
Ah, inversement, je pense que le vecteur dans ma vie, ça a toujours été l'écriture, même si quand j'étais petite, là, ça m'a pris vraiment du temps avant d'écrire, mais quand ça a débloqué... se débloquer. Mais pour moi, écrire, que ce soit de façon... que ça reste sur papier, de façon littéraire, ou que ça soit présenté sur scène, ça restait au même. Même que quand j'ai décidé d'arrêter de faire de la scène, c'était juste pour garder l'essentiel. Hein.
Alors, raconte-nous une histoire. Comment cette idée t'est venue? Il y a bien quelque chose de base qui t'a... incité à raconter tout ça.
Donc, ah oui, j'étais partie sur une go, là, si on n'avait pas poursuivi les questions. Mais c'est ça, quand je suis sortie de l'école, ben juste avant, à l'école, il y a une association qui s'appelle l'Association des écoles d'art supérieures de Montréal, qui regroupe le Conservatoire de Montréal, l'École nationale, l'École de l'humour, l'École de ballet, l'École de cirque. Alors, c'est vraiment une journée d'échange entre les élèves. Et moi, j'avais rencontré différents gens, parce que j'étais allée à l'école de cirque, et il n'y a pas du tout de cirque dans les danseurs étoiles, hélas. Ben, il y avait justement un élève qui avait demandé à une fille de l'école de ballet, tu sais, est-ce que c'était aussi difficile ou aussi sévère que ça en avait l'air? Elle était comme, non, ça change, mais il y a des profs, tu sais, des fois, qui peuvent être un peu plus difficiles. Puis c'était une de ces profs qui avait été sévère d'habitude, mais qu'une fois, elle leur avait fait un compliment et elle avait dit qu'il méritait toute une crème en glace. Puis ça m'est resté quand j'ai travaillé au Dairy Queen. C'était vraiment la fusion de mon vécu et du Dairy Queen, ouais. Et de la crème glacée, et du ballet. Ouais. Parce que c'est vrai que j'aurais pu choisir une discipline qui était la plus proche, et j'avais jamais fait de ballet en tant que tel, peut-être à mes 6 ans, là, comme ouais. comme bien des petites filles. Mais autrement, tu sais, il n'y avait pas de lien si évident, mais dans ma tête, c'est indissociable.
Ouais. Et puis souvent, au Dairy Queen, tu passes le ballet, donc ça restait dans le...
Oui, il y a même une partie dans le roman qui se retrouve aussi dans la pièce où, dans la tête de Prunelle, le personnage principal, il y a comme... une incongruité d'être justement en train d'être au Dairy Queen, mais dans le vocabulaire, retrouver le ballet. Fait que t'es vraiment pas loin avec ton ballet.
En tout cas...
C'est pas pratique les homonymes à la radio, n'est-ce pas?
C'est vrai. dans cette pièce, Prunelle, elle a une grande, grande connaissance des ballerines célèbres, tout ça. Puis en même temps, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que ça représentait... Ben, tu vois, des moments où on peut être... On peut avoir envie de quelque chose, on peut être désespéré ou en disant ben, « je ne l'atteindrai jamais ». Mais en même temps, les rencontres qu'on fait, qui paraissent improbables, bah, peuvent nous amener sur d'autres choses, d'autres chemins.
Oh, t'as dit toute la morale de l'histoire, c'est parfait. Il y a pas, il y a, non, mais tu viens pas de dévoiler un punch non plus. Là. On est correct. Ça garde l'intérêt et pour le livre et pour le roman. Mais oui, c'est vraiment ça, tu sais, les parcours de vie. C'est, des fois, c'est tellement anodin, une phrase de quelqu'un qui va faire toute la différence, oui. Puis la personne, c'était même pas son intention. Oui, mais c'est un peu là, oui, les danseurs étoiles, tu sais, des rencontres un peu étranges, dans le cas de, ben, étranges, inhabituelles dans le cas de Prunelle, qui sort vraiment de son corps en étant dans Schlaga Maisonneuve, mais pour elle, c'est sûr que ça va être déterminant, même si on sait pas la suite.
Toujours avec les rêves qu'elle a, pardon, excuse-moi, toujours avec les rêves qu'elle a là-haut, et puis la
oui, exact, parce
de
que
pas,
même
de en... pas grimper l'échelle. Bon.
Oui, il y a une question à côté
oui.
de moi.
Non, en fait, j'ai juste une remarque. C'était le fait qu'on avait plusieurs vies en une vie. Et je trouve que ça rejoint un petit peu ce que tu étais en train de dire. Et je trouve ça assez vrai dans n'importe quel domaine dans la vie. C'est assez rigolo parce que je me rends compte que finalement, on ne s'est jamais rencontrés. Et puis, encore une autre personne qui pense la même chose puis qui écrit.
Oui, c'est ça aussi qui est intéressant. Après la sortie du roman, c'était aussi de réaliser le côté un peu universel parce que... Se chercher une place dans le monde, que ce soit professionnel ou non, ça vient tous nous chercher d'une façon ou d'une autre, même si c'est très pointu, là, elle est quand même en train d'espérer d'avoir une place dans une compagnie professionnelle en danse classique de nos jours. Là. C'est très précis et très difficile.
Ah oui, elle a des rêves bien marqués dans sa tête, bien
et en même temps, elle cherche parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une diversité en danse, puis quand tu fais de la danse classique, il y a plus de possibilités d'aller vers du contemporain que l'inverse. Oui. Fait que le fait aussi de l'indécision. Tu sais, des fois, quand on n'est pas capable de se décider à 100% où on va, comment tergiverser, ça peut aussi avoir une influence sur notre parcours, là.
Alors, justement...
On tâtonne, justement, en essayant de voir... c'est le fameux test erreur-fonction. Ah oui, ça, c'est bon, c'est correct. Ah oui, non, là, ça va pas et ça nous permet de grandir.
Et comment on met le roman sur scène?
Avec
théâtre,
beaucoup d'aide.
Tu peux faire des choses que tu... en même temps, tu peux écrire beaucoup plus de choses. Puis en même temps, quand tu es sur scène, tu peux visualiser des choses.
Ah ben, c'est complètement un autre langage. Puis j'avais jamais fait de théâtre professionnel avant cette pièce-là. Enfin, je suis surtout très bien entourée. Là. C'est Mark Zuckerberg avec Facebook, hein, parce que ça contacte des gens qu'on connaît pas. Moi, Jonathan Caron, je le connaissais du tout. J'avais demandé à un ami du secondaire qui est devenu comédien professionnel s'il connaissait un dramaturge. Puis finalement, j'ai été référée à Jonathan Caron et à Martine Paille-Prondeau. Ensemble, ils font la co-mise en scène. C'est très, très collaboratif comme projet. Là, t'sais. J'ai redemandé à ma prof de ballet, Lisa-Marie Villeneuve, aussi de participer. On a une consultante en mouvement. Fait qu'il y a beaucoup de collaborations qui donnent un résultat final que j'ai hâte de vous présenter, mais surtout, j'aurais jamais pu faire quoi que ce soit toute seule parce que je suis pas du milieu du théâtre, tout simplement.
Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce que quand c'est monté sur une scène de théâtre, tu t'es aperçue de certaines choses dans ton livre que tu n'avais peut-être pas remarquées au moment où tu les as écrites?
Oh,
t'as joué sur des...
Moi, c'est l'inverse. C'est plutôt de réaliser la structure. Des fois, je me dis, il manque-tu ci, il manque-tu ça? Puis je me dis, c'est aussi ça dans le livre. Fait qu'il y a ce respire-là qui existe encore sur scène. C'est plus ça parce que au final, c'est vraiment une adaptation. C'est comme des jumeaux non identiques. Ça reste les mêmes personnages, ça reste la danse, mais on peut pas tout dire. Puis il y a des fusions de scènes, de personnages. Ouais. Fait que ça cohabite là, finalement, comme les deux, le livre et la pièce.
T'as participé au choix des comédiens?
Oui, on a fait des auditions pour tous les personnages parce que vu qu'il y a de la danse classique, on voulait absolument avoir une danseuse professionnelle qui est présente en tant que danseuse étoile, mais celle qui fait Prunelle, elle a fait l'École nationale de théâtre, mais avant, elle avait fait du ballet toute sa vie.
Wow.
Fait qu'elle a recommencé à être sur pointe exprès pour le spectacle.
Et combien de temps tu mets pour créer tout ça? Parce que là, t'as déjà écrit, c'est ton deuxième livre, c'est ça?
Exact.
Et en plus de ça, tu fais une adaptation sur scène de ton deuxième livre. Tu sais, c'est quand même impressionnant.
Ouais, je pense que ça a été quand même rapide pour la pièce. Là, parce qu'on,
quel âge?
Mon Dieu, mon âge.
Mais
sinon, ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le projet. La sortie du roman, c'était en 2020. Puis en août, c'est là que j'ai contacté Jonathan. Fait que c'est là que c'est parti. Puis j'avoue qu'on a été portés sur une bonne étoile, là.
Ben oui, puis c'est vachement bien. Tu dois être super excitée.
Je pense que ouais, la générale ou le soir de la première, je pense que là je vais le sentir, mais comme là au moment qu'on se parle, on monte les décors, les spots,
là, t'es encore, parce
l'enchaînement,
que tu vas partir dans un moment,
on est surtout dans l'action là, de mettre ça en branle. Puis par rapport à la littérature, je veux dire, un livre une semaine avant parution, ben il est dans une boîte là, dis-le, il reste encore tout à faire là, c'est c'est vraiment deux processus différents.
T'auras fait un beau lien aussi avec les artistes que t'as rencontrés pour qui vont jouer dans la pièce.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Eh ben, par exemple, ce que tu les as choisis, tu as fait des auditions, tu as fait aussi des belles rencontres avec ces personnages-là. Quand tes personnages de livre sont représentés par quelqu'un de physique que tu vois puis qui rentre complètement dans le cadre.
Oui, quand on a fait les auditions, Martine, Jonathan et moi, c'était vraiment par coup de cœur, puis que les gens soient motivés parce que c'est une autoproduction. T'sais, vu que c'est moi qui produis le spectacle, c'est pas... on est allé chercher chaque personne une après l'autre. Puis en audition, je pense à David qui fait un personnage qu'on appelle Raton. Mais en premier, on l'avait auditionné pour Javel, mais on l'a tellement aimé qu'on était comme « Non, non, il faut qu'il fasse partie du spectacle. » Puis là, c'est là qu'on l'a réessayé pour un autre rôle. Mais c'est vraiment un échange, je pense, surtout parce que je pense à Javel, tu sais, c'est un comédien qui fait beaucoup de...
personnage.
Oui, puis tu sais, il fait des acrobaties dans la vie, il est cascadeur, fait que de pouvoir aussi permettre aux comédiens de mettre en valeur des talents qui n'ont pas toujours l'occasion dans d'autres productions, je pense que c'est là que ça prend aussi la force commune de ce projet-là. Là.
Eh bien, écoute... En arrivant en fin d'entretien, on va te dire qu'on te souhaite le meilleur, on te donne le mot de Cambronne, qu'on te donne pour porter chance, mais t'en as pas besoin, vraisemblablement. Puis, si t'as trouvé les personnages sont déjà tellement vivants quand on le lit que de le voir sur scène, on va les reconnaître tout de suite.
Il y a combien de comédiens
dans Il y a six.
Ils sont six sur scène.
Ouais, avec vraiment une myriade de personnages, là, parce que ça représente tout Hochelaga, des personnages qui vont, qui viennent, d'autres qui sont secondaires, là, fait que c'est aussi une performance d'acteurs, là. Ils sont vraiment impressionnants. Moi, je les aime beaucoup, là, je suis vendue, là, mais...
Eh ben, merci beaucoup. Donc, on rappelle les dates. Donc, ça commence le 14 février pour la Saint-Valentin et ça va jusqu'au 4 mars, voilà, à la salle Fred Barry, qui est la petite salle qui est au théâtre Denis Pelletier. Alors, on te laisse rejoindre tes amis du théâtre.
Merci.
Et merci beaucoup pour tout.
Merci beaucoup.
Et puis, bonne continuation pour ton troisième roman. Puis, qui sait, des suites théâtrales, on ne sait jamais.
Oui, on se revoit en salle.
Alors, on se revoit en salle. On part en musique. Au revoir, Jolène.
Toi qui voulais te fondre dans l'air, tordre l'horizon pour faire passer la lumière, éviter la pluie et les discours austères, et enfin respirer juste un peu d'air. Comme s'il nous manquait un peu d'essentiel. Toi tu veux rire et pas juste sourire, toi tu veux grandir et pas juste vieillir, toi tu veux choisir et pas juste obéir, quitte à prendre le risque un jour d'exister. Sans devoir répondre au ciel qui gronde, avorter du poids des regards qui nous inondent, et avancer sans arrière-goût amer. Comme s'il nous manquait un peu d'essentiel. Tu veux vivre
Donc, on vient d'entendre Monsieur Raph qui chantait Essentiel. Raphaël.
Il n'a pas chanté, il était en face de moi, je l'ai vu. Il a pas...
il va chanter tout à l'heure.
C'était mon double en studio.
Ah, d'accord.
Il a pris la guitare parce qu'il va chanter tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir, pour te connaître un petit peu plus, quels sont les événements de ta vie? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire une carrière de chanteur?
Il a grandi, il a fait des études.
Oui, mais toi, t'es pas devenu chanteur, et heureusement pour nos oreilles.
Ouais, c'est quand même un bon guess, mais pas exactement. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment une grande... je te résumais ça en une phrase. Effectivement, c'est compliqué, mais tu sais, mon accent québécois, franco-québécois, tu sais, un peu entre les deux, fait en sorte que j'ai une histoire où je suis autant canadien que français. Et donc, je m'identifie pas exactement au niveau de la chanson, à de la chanson française, ni à de la chanson québécoise. Et donc, moi, je dis que je fais de la musique atlantique parce que c'est là où j'arrive le mieux, en fait, en voyageant, à me trouver moi-même. Donc, je pense qu'on est un peu, en fait, un mélange de plein de cultures. Et c'est mon cas, je crois, dans ma vie. Et, oui. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ma musique aussi.
T'as beaucoup voyagé?
Je sais pas, peut-être un peu.
En tout cas, dans ce que j'ai lu, t'as pas mal voyagé. Donc, ça te permet d'être imprégné par les musiques que tu entends
partout. parce que je pense que, tu sais, on est imprégné en permanence par ce qu'on entend autour de nous, mais tu sais, que ce soit à Montréal au Québec, ou alors que ce soit à Lomé au Togo, ou alors à Cali en Colombie, il y a toujours des sons autour de nous, des ambiances que moi personnellement qui viennent me chercher, et donc des fois c'est des petites ambiances de rue que j'enregistre, puis que là je me dis, ah bah tiens, peut-être que je vais pouvoir le sampler, refaire une musique avec ça. Ça m'inspire d'autres rythmes aussi. J'apprends d'autres instruments comme la marimba ou le balafon. Et donc tout ça fait en sorte que je garde ma plume, je crois. Mais
je connais le balafon, mais je connais pas la marimba. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, la marimba, c'est le cousin, en fait, la cousine du balafon, qui est finalement l'histoire, en fait, des percussions a fait en sorte qu'avec les mouvements migratoires, quand de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des mouvements avec l'esclavagisme qui a été jusqu'en Amérique et notamment Amérique du Sud, eh bien, il y a eu cet instrument-là qui a été transféré, et cette culture-là du balafon. Mais là-bas, il n'y avait pas, en fait, des bois de calebasse autant que ce qu'il y avait en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y avait du bois de bambou, ce qui a donné la marimba. Donc, avec l'évolution, il y a eu des petites différences, mais c'est vraiment le cousin direct du balafon, le marimba.
Ça me fait noter, oui, tu étais en quête du bonheur et de la liberté, mais quand je t'écoute parler, oui, c'est ça. C'est vraiment un projet qui est inspiré de... Est-ce que tu as des anecdotes de tes voyages qui t'ont amené à ce que tu fais aujourd'hui et à ce que tu nous demandes dans Essentiel, faut que tu nous demandes, tu nous proposes?
Ouais, je te dirais qu'il y a quelque chose qui me vient en tête. C'est pas forcément une anecdote qui est très joyeuse, mais je te dirais que Essentiel, pour moi, c'est aussi une chanson que j'ai écrite parce que je voyais un peu tous les trajets de vie qu'on avait les uns à côté des autres et dans des contextes de vie complètement différents. T'sais. Donc, par exemple, oui. Moi, j'ai grandi quand j'étais en France, puis j'étais petit, donc j'avais un contexte de vie particulier. Et en voyageant, j'ai découvert d'autres contextes de vie. Et quand tu vas au Togo, notamment, j'étais à un moment donné à Lomé. Écoute, j'ai rencontré le diable. Et finalement, pour moi, le diable est blanc. C'est-à-dire que je suis rentré dans un restaurant et j'étais le seul blanc, mais tout le monde, évidemment, te regarde parce que tu viens d'arriver dans la place. Oui. Et donc, tu es la minorité visible.
Oui.
Et en fait, une autre personne qui était à côté de moi, un blanc, m'a invité à sa table. Et cette personne-là était belge. Oh, désolé.
Était belge. Ça prouve que on sait accueillir.
Mais en fait, tu vois, et c'était très, très particulier parce que moi, je ne voulais pas refuser d'aller à sa table. Je n'avais pas de raison particulière d'y aller pour autant. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on a la même couleur de peau spécialement que je me dis, tiens, on est pareil. Tu sais, on est tous pareils, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la langue. Donc pour moi, il n'y a pas de favoritisme à faire. Et en fait, donc j'ai quand même été rencontrer cette personne-là et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que toi tu fais? Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il n'avait pas l'air d'être heureux ici, quoi. Moi, j'étais super content de découvrir des nouvelles cultures et tout. Et là, il me dit, donc c'est pas clair. Je creuse. Il parle vraiment pas bien avec les gens autour de moi. Et finalement, il me dit qu'il met en contact les riches investisseurs de diamants et les mines de diamants en Afrique de l'Ouest. Disons que cette personne-là, pour moi, c'est le diable, parce qu'il est au cœur du problème.
Oui.
Et je découvre à quel point la colonisation, la post-colonisation, ce genre de concept-là, j'étais si éloigné de ça, parce qu'on ne m'en parlait pas quand j'étais petit. Après, tu découvres plein de choses en voyageant. Et tout ça pour dire que quand tu écris des chansons, ça transparaît un peu. Je suis parti un peu loin dans mon anecdote.
Non,
désolé,
non, mais c'était bien.
Mais
c'était...
C'est vrai, je veux dire.
C'était très intéressant parce que quand j'écoute les paroles et les questionnements que tu fais, bah, chacun y répond à sa manière.
Bien sûr.
Monsieur Jamin y répondra d'une autre manière, moi d'une autre, d'une façon différente, parce que lui, il est belge, donc...
Vive les diamants.
Non, mais quand on se promène ou qu'on part dans certains pays et puis qu'on voit comment ils vivent... Moi, j'ai le souvenir de Bali, par exemple, de voir à quel point ces gens-là ont toujours le sourire, la générosité, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne savent même pas ce que c'est des vacances pour ceux qui vivent là-bas. Quoi.
Ouais. Bah, ils y sont toute l'année. Je les vois mal venir à moins 40 au Québec, tu vois.
N'exagère pas. Je n'ai pas parlé de venir au Québec en vacances. Il y a d'autres endroits, mais c'est pour faire des petites visites ou des choses essentielles qui manquent, qui pour nous sont extrêmement naturelles parce qu'on les a là.
Mais c'est ça, tu vois. Je pense qu'on est aussi un petit peu favorisé, en tout cas privilégié dans mon cas, tu sais, aussi, puis je veux pas me le cacher, je trouve qu'il y a comme un devoir à prendre un recul sur le monde dans lequel on vit, parce qu'on est tous, on vient tous de la terre, je veux dire, tu sais, on vient tellement de la terre tous qu'on est biodégradable tous, donc tu sais, on vient
Entends
de là.
Jamais.
Oui.
mais quand tu voyages ailleurs dans le monde, ben on a une chance de pouvoir prendre du recul sur notre propre milieu aussi, et donc ben c'est grâce à ça qu'on peut après écrire des chansons, peut-être.
Écrire des chansons, écrire des livres, faire des spectacles, parce que ça nous ouvre le fait de voyager, de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres modes de vie, pas simplement juste la richesse ou la pauvreté. C'est ça, je le dis à mes enfants, par exemple, ils ont une chance incroyable de pouvoir voyager, rencontrer. Elles s'en rendent compte maintenant en grandissant, disant, bah oui, ça, on l'a vu, ça. Et ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit plus que d'autres qui sont dans leur vie, leurs préjugés, leur appréhension, leur peur.
Mais ça prend pas grand-chose en fait.
Ah non,
c'est un voyage, le plus difficile dans un voyage, c'est de faire le premier pas. C'est ça que je pense.
De partir,
Exact. Et puis j'aime bien vraiment cette phrase qui dit que le plus grand des voyageurs, c'est pas celui qui fait nécessairement le tour du monde,
non,
mais juste celui qui fait le tour de lui-même. Ouais. Et je trouve ça joli, l'idée de prendre un peu de hauteur sur le monde qu'on a, juste se dire, ok, bon, je suis dans ce milieu-là, j'ai cette chance-là, d'autres n'ont pas forcément cette chance-là. Alors, comment on fait pour essayer d'équilibrer?
Et puis partir aussi à la découverte de l'autre ou de l'endroit où tu vas. C'est-à-dire que quand tu vas dans un resort 5 étoiles où tu es nourri, logé, blanchi, tu n'as rien à faire, tu fais la merguez sur la plage, c'est pas ça, aller à la rencontre des autres. C'est, toi, nous, cet hiver, on a fait un road trip avec mes enfants. On a fait l'ancienne route 66 et puis on est remonté les États-Unis. On a fait 12 000 kilomètres.
Waouh.
Mais... on s'est arrêté à des endroits, on a passé l'histoire de la route 66 dans des villes. On est passé par des villes où on ne serait jamais passé parce qu'en avion, pour aller directement à l'autre côté de la... Et donc, ça a été très intéressant. Et c'est ça. Et là, on enrichit, on voit et on comprend. C'est juste une anecdote. La première ville où on s'arrête, c'est Détroit.
Ah ouais.
D'accord. Parce qu'on trace jusqu'à Détroit, on arrive, le soir est là, le lendemain, on se lève. Et à un moment donné, on ne se sentait pas bien parce qu'on était les seuls blancs. Tu parlais de minorité visible. Détroit, il y a une très très forte concentration de population noire. Et là, on était en plein le downtown. Il n'y avait pas d'autres. Et c'est là où tu te dis, ok, maintenant, je peux me mettre à la place inverse.
Ce que
quand eux sont. Alors tout s'est bien passé. Il y avait aucun malaise. Ils étaient tous très bien, etc. Mais tu sais, ça te frappe en une fois. Et puis après, il y a tout le trajet que tu
fais
dans
ta
tête.
Mais c'est ça, le voyage, c'est ça. C'est-à-dire que dès que tu voyages, quelque part, tu peux voyager aussi autour de chez toi. Aller au bout de la rue, tu sais, c'est voyager quand même. Mais c'est l'idée de sortir de soi-même. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire avec moi-même. En fait, c'est juste de sortir de moi, d'apprendre à me connaître mieux. Mais tu sais... un peu plus haut.
Ouais. À travers le regard.
Moi, je peux pas parce que quand je vais trop haut, je peux plus revenir.
Ouais, après, il y a plafond aussi.
Ouais, c'est ça.
Prendre un peu de distance, mais ça, c'est difficile. Mais bon, mais c'est pas bon pour tout le monde. Mais en même temps, messieurs, toi, à travers la chanson, toi, à travers le théâtre, c'est aussi ça que la culture nous apporte parce que parfois, on peut faire un voyage quelque part. Et puis t'es ému, il y a des choses qui te viennent, puis tu reviens dans ta vie d'habitude, puis les habitudes ont la vie dure, tu sais, donc ça revient te mettre. Et c'est ce à quoi vous servez, vous les artistes, c'est-à-dire à nous ramener à travers une pièce de théâtre, à travers un spectacle, à travers des chansons, à nous ramener à ce moment d'émotion, à ce moment de réflexion qui dit « Ah ben oui ».
On est un peu comme des philosophes, hein, ce que je dis dans un de mes spectacles, on est là pour conscientiser les gens, on est là. on le fait inconsciemment parce qu'on fait ça par, de manière naturelle, lui, oui. pas en créant sa chanson, parce que ben, c'est ce qui le guide, moi, en faisant le con sur une scène. Mais on conscientise les gens un peu comme des philosophes. On leur fait remarquer des petites choses. Je ne suis pas un humoriste qui fait juste blague sur blague derrière comme les stand-up. C'est-à-dire, on peut essayer de raconter des histoires, essayer d'amener, parler de sujets par l'humour ou autre. Et c'est ça, oui, effectivement. Et le voyage, la rencontre avec les autres, nous permet de nous faire rendre compte des choses. Et bien, tiens, je vais le transmettre ou essayer de le faire voir au public. De
nous faire voir que les choses, quand on les écoute, bah, une chanson, ça se répète dans l'oreille. Donc, on finit par entendre des fois plus une première écoute, une deuxième écoute, une troisième écoute. Et puis, quand il s'agit d'un spectacle comme ceux que fait Jamin, bah, des moments, tu rides quelque chose, puis tu dis... Ben, c'est quand même un petit peu moi qui étais là sur... dans ce qu'il vient de dire. Pas plaisir.
Finalement, c'est simplement une conversation aussi. Ouais. Être sur scène, bon, ben, c'est ça aussi. C'est un moment que t'échanges, où tu échanges entre plusieurs humains. Oui, on rencontre l'autre, on parle, on s'exprime. C'est peut-être un peu ça aussi, l'art. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si on pourrait s'entendre sur le fait de s'exprimer, en tout cas.
À travers tout, à travers les peintures, à travers les sculptures.
Ouais. On donne quelque chose, on a quelque chose en retour. C'est un échange. Mais qui n'est pas que matériel.
Alors, on va faire une petite pause, les amis, et après, Raphaël, c'est toi et ta guitare, on t'écoutera. Alors, à tout de suite, on nous met un petit moment musical juste avant pour finir ces mots si intéressants. Et puis après,
on revient.
On revient tout de suite après. Donc, prépare-toi, prends ta guitare, t'as raison, installe-toi bien comme il faut, parce que dès qu'on revient, c'est toi.
Ok.
À tout de suite.
Vous écoutez Le Pied dans la Porte avec Arlette Farah.
C'est à toi, Raphaël, vas-y.
Je suis il, elle, nouveau, il, elle, toi. Je suis il, elle, nouveau, il, elle. Je suis il, elle, nouveau, il, elle, toi. Je suis. Par la prétention des frontières qui aimeraient en nous faire croire que nous n'avons rien en commun. Et pire que ça, quoi que l'on fasse, ni toi ni moi n'échangerait rien. Mais toi tu viens d'où? Dis-moi je viens d'où? Et toi tu viens d'où? Dis-moi on va où? Et toi tu viens d'où? Dis-moi je viens d'où? Et toi tu viens d'où? Dis-moi on va où? On est né au kilomètre zéro. Thank you. sur ma peau qui me font office de tatouage. Celles qui parcourent mon épiderme racontent mon carnet de voyage. Quand la mémoire me fait défaut, la génétique de mon bagage démonte le puzzle de mes os. Retrouver le point de départ, on est né au kilomètre zéro.
Saint-Denis se lève. Ouais.
Monsieur Raph, qu'est-ce que c'est le titre ?
Alors, le titre de cette chanson, c'est Kilomètre Zéro.
Oui.
Et voilà, ça a été écrit dans mon... En fait, je l'ai sorti dans mon dernier album, qui est sorti en 2020. Et Kilomètre Zéro, je me suis dit que ce serait peut-être bien de la jouer, vu ce qu'on vient de parler.
Oui, et puis ça tombait trop bien.
Oui, effectivement, tu sais. Donc, effectivement, c'est un peu le prolongement de ce que je pense aussi.
Ah oui. Alors justement, tu avais une question, Jamal.
Oui, parce qu'on parlait de voyage, bourlinguer, on peut dire un petit peu. Qu'est-ce qui t'a fait bourlinguer ? Est-ce que c'est par les parents, le métier de tes parents, toi-même après ?
Oui, en fait, c'est vrai que ma mère, du côté de ma mère, elle a grandi à Montréal. Tu sais, mm-hmm. Donc étant donné, même si elle est française, tu sais, mes parents sont français, mais elle a grandi à Montréal, ce qui fait que mon grand-père était là dans les années 60 et tout. Donc j'avais un lien déjà fort avec mm-hmm. le voyage, avec déjà deux cultures. Et puis après ça, je me suis vite rendu compte que j'avais un besoin de bouger, tu sais, physiquement parlant. Mmh. Et c'est comme ça que j'écris mes chansons, c'est comme ça que j'ai de l'inspiration en écrivant mes chansons. C'est simplement en me déplaçant physiquement parlant, tu sais. Donc le voyage, c'était comme quasiment le prolongement de ce que j'ai.
Mais comment tu fais pour choisir ce que tu parlais de... du Togo, ouais. T'as parlé de l'Amérique du Sud, donc c'est quoi c'est,
ouais.
Ça vient comme ça, c'est une envie, c'est quelque chose que t'as envie de découvrir.
Oui, en fait, bon, alors de base, je vais vraiment résumer la question, c'est que j'ai envie de voyager partout, parce que j'ai vraiment
un besoin. T'inquiète pas, t'es pas le seul.
Voilà, c'est ça, tu sais, on a beaucoup. Mais...
On a tous envie, mais toi
mais,
tu le fais.
Partout, quoi, tu vois, même l'Antarctique, moi, ça m'intéresse, quoi, je me dis, tiens, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai quand même envie d'y aller.
D'aller voir, quoi.
Donc, tu vois, il y a ça, et puis il y a le fait qu'après, ben, je trouve que les cultures du monde, c'est vraiment la richesse, tu vois, du mm-hmm. monde qu'on a. Et à un moment donné, j'avais écrit une chanson qui s'appelle Embrasse la Lune pour moi. Et j'avais écrit cette chanson-là parce que, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui parlaient d'aller dans l'espace et d'aller voir ailleurs. Et moi, je me suis dit, mais finalement, tu vois, moi, j'ai absolument pas envie d'y aller, quoi. S'il y a un lieu où je ne veux pas aller, c'est en dehors de cette terre parce que je trouve que ça peut être magnifique. Et on doit mettre ça en valeur, tu sais, parce qu'on vient de là, comme on disait.
Il y a déjà de belles choses à faire sur Terre avant d'aller voir.
Mais oui, et puis, exactement.
On ne prend même pas le temps de la connaître parce qu'on est loin, on peut passer toute une vie sans la connaître entièrement. Donc,
il y a des gens qui ne sortent même pas de leur village toute une vie, quoi. C'est ça.
Des fois, il y a de la peur, tu sais, qui peut arriver en ligne de compte, qu'on se dit, ah bah tiens, est-ce que finalement, ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu, ça fait peur. Et c'est là aussi que je pense que si on peut être un peu plus confiant parfois en écrivant des chansons et peut-être rassurer avec quelques paroles.
Ça nous fait voyager, justement.
Mais je trouve que ça fait du bien des fois de, tu sais, ouais, revenir un petit peu à l'essentiel, comme on disait aussi.
Alors, ton projet musical, puisque comme tu nous le disais en première partie, il t'a inspiré de ton histoire, de tes voyages, de tout ça. Tu fais quoi ? Tu vas créer un album physique ?
Alors oui, c'est une belle bonne question dans le monde dans lequel on vit. En fait, alors oui, il y aura des albums physiques, donc c'est-à-dire CD et vinyle éventuellement si les gens en demandent.
C'est chouette.
Mais c'est ça. Donc avant tout, maintenant on est aussi dans un univers où c'est digital. Très numérique, ouais, très digital. Donc ça va déjà avant tout sortir sur toutes les plateformes numériques qui sont possibles et imaginables sur Internet. Donc déjà la chanson que je sors en fait demain soir à minuit, Essentiel, sortira pas mal juste en numérique celle-ci, et après l'album à l'automne, un peu partout, et sur et numérique et physique.
Et bien sûr la question, il y aura combien de chansons ?
Alors,
parce qu'elles sont déjà toutes écrites.
Oui, mais j'hésite avec peut-être une... Alors, j'en ai 10, en fait, qui sont déjà toutes enregistrées, tout. Par contre, là, j'hésite en ajoutant une, peut-être. Donc, voilà, qui serait peut-être finalement une chanson qui serait musicale uniquement. et où je laisserai la parole à ma musique.
Oui, parce que j'ai vu ça, que tu es multi-instrumentiste. Oui. Tu ne joues pas que de la guitare, donc...
Exact, c'est ça. En fait, tu sais, la guitare, pour moi, je n'ai pas étudié la guitare quand j'étais plus jeune ou quoi. Oui. Donc, c'est comme un instrument qui est facile d'approche, on va dire, en autodidacte. Mais finalement, j'ai juste découvert que j'aimais bien, les sons de manière générale. Donc, ce qui m'a amené à aller voir d'autres instruments aussi et jouer d'autres instruments. Ouais.
Pour lesquels tu t'es passionné? Comme ouais. Ça, là, quelques-uns.
Oui, alors ben, y a par exemple le Yidaki qu'on peut, qui s'appelle plus communément le didgeridoo, mais que fait,
ça je connais.
Voilà, mais en fait ça s'appelle le Yidaki. Ah, un Yidaki, c'est-à-dire que c'est un instrument qui vient d'Australie et donc qu'on connaît peu sous son vrai nom, mais plutôt sous son nom onomatopée. Didgeridoo, mais simplement didgeridoo parce que les colons anglais sont arrivés en Australie et ont entendu que ça faisait didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Donc on a appelé ça un didgeridoo, mais un nom plus respectueux, ce serait d'appeler ça un didaki.
Ah, voilà. De savoir l'histoire, mais ça ouais. C'est bien.
Et puis ça me rappelle la terre, en fait, c'est un des instruments les plus vieux au monde. Donc quand tu le joues, il y a quelque chose de très organique qui vient me chercher et qui me permet de sortir de moi-même aussi. Ouais.
D'accord.
Est-ce qu'il y a des concerts, des dates, une première médiatique, quelque chose qui serait en prévision?
Oui, exactement, c'est une belle question. Mais il y a la première du spectacle qui sera le 14 avril à Montréal, au Ministère. Ouais, exactement, c'est une première, la première du spectacle.
Et tu nous fais signe, hein, tu nous l'écris pour qu'on puisse l'annoncer.
Avec plaisir.
Et venir te voir
avec
aussi.
Avec grand plaisir.
Parce que ce serait bien. Avant qu'on entende Jamin, parce qu'on est quand même tenu de le faire parler, non, j'ai toujours beaucoup de plaisir, c'est amical et affectueux la façon dont je parle
ironique
de toi.
Ironique et caustique, oui, c'est ça.
Je ne peux pas m'en empêcher.
Madame Drucker.
Pour une fois que ce n'est pas moi qui est de l'autre côté.
C'est pas toi qui prends, c'est lui. J'ai été gentil avec toi, méfie-toi Mathieu.
Nous
parce
sommes
que
les souffres-douleurs de Arlette.
C'est pas vrai, je les aime. Alors, tu vas nous chanter une autre chanson. J'aimerais ça que cette fois-ci, on fasse l'inverse, que tu nous la présentes avant de l'interpréter.
Ouais. Écoute, je pensais jouer une chanson que j'ai composée au Togo, vu qu'on parlait de ça tantôt, ouais. Et que j'ai écrite quand j'étais en Colombie. Donc finalement, ça a été un peu un mélange de deux univers et qui, pour moi, peut-être c'est l'idéal dans ce que je fais, étant donné que c'est là où j'arrive à m'insérer le plus, parce que ce qui transparaît après, ce qui reste, ben, c'est un peu juste ma chanson, vu que c'est mon identité. Et ça s'appelle « Le cœur parle une autre langue ».
Oh, j'aime le titre. Allez, on y va, on t'écoute.
Deux inconnus, la première fois, ni l'un ni l'autre n'ose faire le premier pas. Et si par les mots on ne se comprend pas, c'est juste que le cœur. Extraños para primera vez, ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso. Y si las palabras no son suficientes, es solo que el corazón habla otro idioma.
C'est la chanson du bonheur.
J'aime.
Colombie, Togo, cocaïne de diamant, quoi.
J'aime beaucoup ce que tu fais. Ce que tu chantes.
Merci beaucoup.
Merci. Merci pour ton écriture, ta musique. Ben, on terminera avec toi aussi après en finale. Mais là, nous allons écouter.
J'enchaîne c'est directement.
Jamin Jtouki.
D'accord.
Oui. Eh et là, tu as vu, je l'ai dit sérieusement. Ben, c'est moins drôle quand je fais ça sérieusement.
Oui, on va donc voir
bon,
ce que ça va donner.
Jamin. Allez.
Voilà, c'est lui, il est là. Alors, pour cette chronique, je vais essayer de ne pas bégayer, de ne pas me tromper, de lire correctement afin d'éviter le stress, quoi. Hein. Ce qui n'est pas facile avec Arlette à côté de moi. Hein. Laurent ne dira pas le contraire. C'est comme travailler avec un corbeau sur l'épaule. Ça peut faire peur. Simplement pour dire que nous, les artistes, on souffre d'un mal qui peut être terrible pour certains, moins pour d'autres. Je veux parler du trac. Et oui, alors au début de ma carrière, avant de monter sur scène ou avant de faire une chronique à la radio, j'étais nerveux, j'avais le trac. Oh là là ! C'était toujours pareil. Avant d'entrer sur scène ou de parler dans le micro, quand je faisais un nouveau show, j'avais un foutu trac, un stress pas possible, là, dans le ventre. Là-dedans, c'était le carnaval de Rio. Oui, ça dansait la samba. Dans les pays d'Est, c'était les montagnes russes. Oui, c'était l'effet Poutine. C'était explosif, là-dedans. Alors maintenant, je suis obligé de manger ukrainien pour être immunisé. Mais je sais que les gens qui nous écoutent ou qui viennent au spectacle, c'est pour rigoler, en fait. C'est pour passer un bon moment. Mais en humour, on n'a pas le droit à l'erreur. Non, c'est vrai. Dans le dramatique, c'est moins grave. Parce que dans la matrice, tu sais pas trop quand le public est attentif, concentré, endormi. Ça, tu le sais seulement aux applaudissements, si jamais t'entends. Tu dis que c'était une soirée de merde, s'ils sont et toujours là, à la fin, c'était correct. Alors que nous, les humoristes, on doit faire rire. Ça doit être instantané. Et si en tant qu'humoriste, tu fais pas rire, tu te fais lyncher. Et ça nous amène un stress. Mais par contre, quand vous rigolez, cher public, c'est le bonheur. Un pur bonheur. Parce qu'après tout le travail qu'on a fait, vos rires, c'est notre premier salaire. Oui, notre premier salaire, notre récompense. En plus, vous ne vous imaginez pas tout le travail qu'il y a derrière, avant d'écrire ou de faire le show, avoir l'idée, créer la promo, le visuel, ensuite l'écriture, l'apprentissage des textes, les répétitions, la mise en scène, les lumières, les sons, les costumes, les décors. Bon là, ok, en studio, j'ai fait light, mais c'est parce que j'ai pas eu les subventions. Une autre récompense que l'on a, nous les artistes, quand on est sur scène, ce sont les applaudissements du public. Ce sont les... Voilà, il y en a un qui suit. Merci pour votre spontanéité, ça fait plaisir. Hein. Oui, donc l'autre récompense, les cris de la foule en délire.
Ouais,
voilà, les femmes qui nous montrent leur sein.
Non.
Ouais, ça marche jamais. Non, attends, tant pis. Mais j'ai une chance incroyable parce que je fais le plus beau métier du monde, auteur, interprète, humoriste.
Wow.
Ça claque, ça. Hein.
Ouais.
C'est toujours mieux que travailleur autonome du chômage. Un jour, je vais faire les courses, chez mon épicier, à côté de chez moi. Et là, il me demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et là, je lui réponds fièrement, comédien. Et l'épicier me répond, non, mais sérieusement, c'est quoi votre métier?
Quelle horreur.
Le pire, c'est que c'est vrai. Et le pire, c'est ma mère. Parce qu'à ma mère, quand on lui demande ce que je fais dans la vie, elle répond, le con. Je sais pas comment je dois le prendre ça, mais je m'en fous parce que je suis fier d'être un con. Je suis fier de faire le con, d'être un clown, parce que par chance, aujourd'hui, il n'y a pas ma mère. Hein. Alors attention, non, j'adore ma mère, hein. je vous le dis, c'est une des femmes les plus importantes de ma vie. Elle a été extraordinaire pour m'élever seule après le départ de mon père qui n'est jamais revenu du bar. Oui, on est belge ou on ne l'est pas. Hein. Non, le problème avec ma mère, c'est qu'elle vient tous les soirs au spectacle. Elle arrive 2 heures à l'avance, passe devant la billetterie en disant « Ah, je ne paye pas, je suis la mère de l'artiste !» Elle arrive comme ça, elle se met au premier rang, juste devant moi. Là, elle met ses petites lunettes, fronce ses petits sourcils, pose le texte sur ses genoux et dès que je n'utilise pas le mot exact, elle me regarde en faisant « C'est insupportable !» Mais ça, ça me donne encore plus le trac. D'ailleurs, à propos du trac, il y a une anecdote que j'adore. C'est dans les années 1930, lors d'un spectacle dans un grand théâtre où jouait Louis Juvet. Hein, Arlette, oui. Ça te parle?
Oui,
Louis
oui,
Juvet, c'est un grand comédien de ces années-là, très célèbre. Et il était en coulisses avant de rentrer sur scène et il avait un trac énorme. Il tournait en rond, là, à force de tourner, il faisait il creusait le sol à force, tu vois. Et il y a une jeune comédienne inconnue qui est à côté de lui et là qui lui dit « Mais monsieur Jouvet, calmez-vous. Attendez, vous êtes un grand comédien avec des années d'expérience, de succès. Le public vous adore, il est là pour vous, il vous est acquis. Pourquoi avoir le trac? Alors que moi, regardez, c'est mon premier spectacle. » Je n'ai pas le trac, je suis calme. Alors pourquoi avez-vous le trac? Et là, Louis Juvet lui répond avec cette superbe phrase. Ma petite, parce que le trac vient avec le talent.
Ouh. Oh là 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 là.
Cassé !
Ce n'était pas méchant. Ce n'était pas méchant. C'est juste qu'il relate un fait réel qui est que, eh ben, quand on démarre sur scène, on risque rien. Hein? On fait des études, on travaille la journée, ou pas, donc on est là.
Je vois pas pourquoi tu t'es tourné vers moi, mais c'est pas grave.
Parce que j'ai un autre artiste en face de moi, donc je... Et donc, si on est là sur scène et qu'on fait nos machins, si ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est fini, quoi. On revient à notre vie d'avant, les Bien études, sûr. Le travail, ou pas, d'accord. Par contre, si ça marche, qu'on revient sur scène régulièrement. Mais c'est là que le trac apparaît. Et oui, parce que là, nous, en tant qu'artistes sur scène, là, on se dit, est-ce qu'ils vont rire comme hier? Et demain, est-ce qu'ils vont rire comme aujourd'hui? Et est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais bégayer? Et est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer? Parce qu'en fait, ce qui amène le trac, c'est le jugement du public. Votre jugement. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais public. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que de mauvais spectateurs. Oui, et il n'existe que trois sortes de spectateurs. D'abord, il y a ceux qui se lèvent pendant le spectacle, quoi, avant qu'il ne soit fini, quitte à déranger les gens comme ça, oui, c'est qui partent en premier, à ouvrir la porte, à l'ovester, récupérer leur manteau, et qui partent. Alors ça, on sait que ce sont ceux qui ont détesté le spectacle. Les salauds !
Il est parti, Mathieu. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, il quittait le studio.
Ensuite, il y a le deuxième type de spectacle, c'est ceux qui vont t'attendre à la sortie, et puis qui vont faire un grand sourire, venir t'embrasser, et puis ils vont être là, bravo ! Bravo ! Quel talent ! Quel talent, mesdames et messieurs ! Applaudissez-le, mais regardez-le, mais vous êtes fabuleux, mais vous êtes fabuleux, mais comment ça se fait qu'on ne vous voit pas plus à la télé, que vous n'êtes pas si connu ? Merveilleux ! Ça, c'est celui qui ne voudra pas que vous sachiez qu'il a détesté le spectacle. Foutu ! Et puis après, il y a une troisième type de spectateurs, et c'est ceux que je préfère, c'est ceux qui vont t'attendre à la fin du spectacle, comme ça. Tu vas sortir, puis va te regarder, petit clin d'œil, petit sourire comme ça sur le côté, à s'approcher, bravo, félicitations. Te prendre par l'épaule, t'amener dans un petit coin sombre. J'adore quand ce sont les femmes qui font ça, bien entendu. Mais bon, il y a des garçons aussi. Et puis, à part, sur le côté, ils vont aller dans leur poche, sortir un petit billet qu'ils vont glisser, comme ça, dans ta poche de chemise. Alors là, je me demande, après ma chronique, j'aurai quel type de public aujourd'hui.
Bravo ! Bravo !
Si.
C'était joli. Écoute, on a fait une nouvelle émission. Jamin travaille avec moi depuis déjà un bon moment. On a fait une nouvelle émission qui, eh bien, il s'éclate.
Ouais.
Il s'éclate. Il fait, cool. Il fait la première fois qu'il a fait sa chronique, elle était magnifique. Il en fait une deuxième, elle est excellente. Ah, ça va être dur de tenir le rythme,
le track,
Jamin.
Voilà, dans un mois. Alors ça, c'est un extrait, il y a une partie d'un extrait de nouveau spectacle que je fais qui s'appelle Tout est drôle sauf le titre. Ouais, je préférais mettre tout dans le spectacle, je ne me suis pas cassé la tête pour le... Et donc, je joue samedi, donc si samedi, des gens ont envie de venir me voir à la Comédie de Montréal, ben n'hésitez pas. Donc,
samedi
tout est drôle, ce samedi.
Ce samedi, ça commence
régulièrement, ouais, c'est ça.
Et tu vas en faire dans la semaine qui suit.
Dans le mois, voilà.
Alors, renseignez-vous à la Comédie de Montréal. Et allez-y, parce que d'abord, c'est un endroit... Tu connais, non ?
Non, je ne connais pas.
C'est un endroit super, vraiment. Ce n'est pas parce qu'il est là, mais vraiment, c'est un endroit super. C'est chouette. Et sur scène, il est bien meilleur quand il a la radio.
Mais j'ai un physique de radio, donc tout va bien.
Il est bon, moi aussi. C'est pour ça qu'on en fait. Est-ce que tu veux bien, que sur le moment d'en finir, en faire une troisième? Je sais que je te prends au dépourvu, mais tu n'es pas obligé.
Non,
si tu...
avec plaisir. On peut faire ça si la guitare veut bien encore...
Si elle veut encore accordée. Alors, est-ce que je dis au revoir avant ou je vais avoir le temps de dire au revoir? J'aurai le temps? Ça dépend. Alors, on va...
Mais de la chanson.
De la longueur de la chanson.
Okay. Pas de problème. C'est cool.
D'accord. Alors... Vas-y, et puis...
Alors.
En impro total, direct live, monsieur...
Mais moi, j'aime mieux quand il chante en direct.
Ok, monsieur, est-ce que tu veux que je te présente cette chanson-là aussi? Je vous la présente.
Alors, vas-y. Mais...
Alors, celle-ci, on en avait parlé tantôt, donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Je vous avais parlé de « Embrasse la lune pour moi »,
oui,
qui est une des chansons que j'ai fait aussi dans mon dernier album. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être vous la faire.
Ah ben, merci beaucoup pour ça. Et puis, au cas où, on dit quand même au revoir, même si on le redit après. On dit merci tout le monde.
Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir été là. Et puis, on t'écoute et je referai des au revoir plus précis juste avant. Allons-y.
Embrasse la lune pour moi, le jour où tu la terrasseras, moi qui ne prétends pas à autre chose que la terre. Et pour les autres planètes, je manquerai de souffle, moi je préfère l'air d'ici, même s'il est un peu trouble. Parlons peu, parlons creux, embrasse la lune pour moi. Parlons peu, parlons creux, et tous mes voeux de bonheur. Parlons peu, parlons creux, embrasse la lune pour moi. Parlons peu. Si tu y tiens, je ne te retiens pas. Embrasse Mercure pour moi, le jour où tu la terrasseras, toi qui rêves depuis toujours. Chercher plus loin, mais tout n'est pas sans fin. Il faudra bien te rendre à l'évidence, tu es né sur cette terre. Parlons peu, parlons creux, embrasse la lune pour moi. Parlons peu, parlons creux, et tous mes voeux de bonheur. Parlons peu, parlons creux, embrasse la lune pour moi. Parlons peu, parlons creux, la gravité nous rappellera.
Merci pour ta générosité, monsieur Raph. Merci aussi à Jolène Rueb. Et puis n'oubliez pas Les Danseurs Étoiles Parasites Ton Ciel au théâtre Fred Barry à partir du 14 février. Merci, Jamin. Merci à toi, Mathieu.
Qui est resté pour finir.
Et au revoir à toutes
C'était
et tous.
Une fausse sortie. Ah ben
j'ai pas le choix, je suis derrière la console.
Au revoir à toutes et tous. Beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
Dans un mois, moi.
Ah oui, toi, c'est dans un mois. Heureusement, ça me laisse le temps de me reposer. Allez.
De reposer de Jamin, c'est ça?
Oui, me reposer de Jamin. Alors, n'oubliez pas. Et puis, l'essentiel et toutes les autres belles chansons que tu nous as offertes. Merci beaucoup. Hein. Merci.
Oui, c'est quand
tu as été vraiment généreux. Puis, tu as parlé du mois d'avril.
C'est ce soir à minuit.
Alors, c'est jeudi soir à minuit, c'est-à-dire donc
à
vendredi à 0h.
Voilà. Ouais. Bye bye à tous. Ouais. Au revoir et passez une belle soirée.
Ah, bye bye.